cabrio automatique, en train de cramer et à bug. Y'a plus grand chose de magnétique sur la bande son de ton flipper. J'en triste mon quotidien dans leur normalité baveuse. Prennent leur futur de repingouin au bout de leur graisse alumineuse. Et toi tu ne sais plus où aller, tu quittes ça qu'en voie sans issue. T'as juste appris à éviter les snipers et les tirs d'obus. L'horreur est humaine, clinique et banale. Enfant de la haine, enfant de la peur. L'horreur est humaine, médico-légale. Enfant de la haine, que ta joie le meurt. Sous les regards torvénaïdeux des cyborgs au circuit moisi, les cerveaux de s'en retourne à la barbarie. Et tu traînes tes tendres allées d'incertitude et d'impuissance. Parfois tu rêves de t'envoler, de mourir par inadvertance. L'horreur est humaine. Un vieux cahier boisseux plein de formules d'algèbre noir. À quoi peut ressembler ton spleen, ton désespoir et ton chagrin. Une des étoiles anonymes de la constellation du chien. À quoi peut ressembler ton spleen, ton désespoir et ton chagrin.
Tu m'en fais la guillotine.
C'est ça la médecine.
C'est ça la médecine.
Tu m'en fais la guillotine.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour. Aujourd'hui, on va faire un retour sur les assises de... ça s'appelle les assises citoyennes du soin psychique qui se sont tenues les 11 et 12 mars 2022 à la Bourse du Travail à Paris. Et donc le propos qui est le leitmotiv de cette manifestation est le suivant. Après tant d'années de restrictions budgétaires touchant la psychiatrie alors que la demande de soins de la population ne cesse d'augmenter, après ces entre guillemets réformes qui ont mis à mal le cœur des métiers du soin et leur sens même, on parle à nouveau d'hospitalité, de respect, de dignité. Ce changement est dû aux grèves dures de collectifs soignants dans une dizaine d'hôpitaux, sans doute plus. Certaines allèrent même jusqu'à mettre leur vie en jeu. C'est dans cette dynamique que nous sommes inscrits, alors ce sont les professionnels qui parlent, nous nous sommes inscrits dès l'automne 2018, patients, familles et professionnels. Oui, et donc les patients et les familles aussi, d'ailleurs. Nous voulons, par une coordination de nos actions, partout sur le territoire, parvenir à sauver le soin psychique. Nous voulons revaloriser et repenser le travail soignant. Au fil des débats, c'est l'idée d'un printemps de la psychiatrie qui a émergé, l'appel à un mouvement de renouveau du paysage de la psychiatrie, et c'est collectivement que nous avons rédigé le manifeste pour un renouveau des soins psychiques. C'est un point de départ qui nous paraît important et qui a recueilli des soutiens variés et déjà nombreux. Mais ce n'est bien sûr en rien un texte sacré. Notre ambition est modeste mais grande à la fois, que ce manifeste puisse susciter des débats et conforter le désir d'agir dans des dizaines de villes. Au-delà des patients, soignants et familles, tous les citoyens sont concernés par la situation devenue catastrophique dans les lieux de soins. Et donc, familles et soignants, et tous les citoyens, peuvent rejoindre le mouvement pour que cela change. Le 11 et 12 mars donc 2022 se sont tenues les assises citoyennes des soins psychiques. Et donc, nous, à l'Entonnoir, eh bien, on fait un petit retour sur ces assises du soin psychique qui se sont déroulées les 11 et 12 mars. Ah oui, alors 2022. Ah oui, non, mais là, c'est, je crois qu'il y a une erreur, c'est plutôt 2000... Ah oui, ah non, ça c'était... Alors, pardon. Oui, alors à propos, c'est la catégorie à propos. Oui, d'accord, c'est un ancien texte, mais qui... a été mis sur le site de la printemps de la psychiatrie, sans doute parce que il n'a pas été, il est toujours d'actualité. Bon, mais évidemment, ce n'est les assises de la psychiatrie, c'est celle de cette année, et, bien sûr. Et du coup, c'était en les 24 et 25 mai 2024, voilà. Eh bien, comme retour de ces assises, je peux vous proposer d'abord la lecture d'un document. Je ne vais pas lire tout le document hein, parce que ça prend de la place dans la chronologie. C'est la contribution du PCF, par exemple, à la première partie de l'atelier 1, quel accès aux soins. PCF qui est partie prenante du mouvement qui est devenu le printemps de la psychiatrie depuis sa première réunion à l'automne 2017. Alors, il constate que ça va mal et que c'est de pire en pire, qu'il y a des pistes de perspectives alternatives qui peuvent s'ouvrir pour poser les bases d'une plateforme pouvant rassembler les forces permettant de changer réellement la situation de la population. Et donc, le PCF fait des propositions. Ben, c'est pas trop les propositions que nous allons lire aujourd'hui du PCF sur les états généraux de la psychiatrie, mais leur constat, c'est-à-dire ce qu'ils dénoncent ici. Alors, nous dénonçons l'appauvrissement de la psychiatrie durant 40 ans qui a entraîné le renoncement à certaines de ses missions comme la prévention et le tri des malades. Aujourd'hui, seuls les plus malades ont accès aujourd'hui au service public de psychiatrie de secteur. Les autres sont renvoyés vers un psychiatre libéral ou un psychologue libéral s'ils peuvent le payer et en trouvent un. Les autres vers le généraliste. Nous dénonçons les délais d'attente intolérables pour un premier rendez-vous pour ceux qui sont éligibles aux soins. Nous dénonçons les fermetures de structures ambulatoires et de lits remettant en cause l'importance du principe de soins de proximité. Nous dénonçons les fusions de secteurs qui aggravent ces fermetures. Nous proposons que la psychiatrie ait les moyens de remplir sa mission fondamentale qui est de répondre à toutes les souffrances psychiques les plus graves, des plus graves aux plus bénignes, sans restriction, ce qui nécessite les réouvertures des structures ambulatoires et de lits et le rétablissement des secteurs de proximité et l'embauche massive de soignants. Nous dénonçons l'inscription de la psychiatrie dans le parcours de soins instauré par la loi Touraine. La psychiatrie étant considérée comme une spécialité comme les autres, cela entraîne le séquençage de la maladie entre période de crise et de rémission et la segmentation des intervenants. La psychiatrie n'ayant à traiter que les cas aigus en CMP ou en hospitalisation et l'immédiat post-cure en CATTP. 6 mois renouvelables une fois. Donc des centres de thérapeutique à temps partiel. D'activité. Les patients stabilisés relevant du médecin généraliste avec éventuel étayage du social, GEM, et du médico-social, comme les foyers d'accueil médicalisés. Voilà tout ce qui est dénoncé. Et donc, ce qu'il propose de. Le PCF, à la première partie de l'atelier, quel accès aux soins, propose. Que la psychiatrie soit considérée comme une discipline à part entière au même titre que la médecine, la chirurgie et l'obstétrique, et non plus comme simple spécialité médicale comme la cardiologie ou la dermatologie. Des choses comme ça. Bon, voilà. Bon, ben, on a un point de vue, d'un parti constitué d'une idéologie plutôt productiviste hein, et puis très travailliste. Donc, effectivement, là, il n'y a pas vraiment une critique du traitement des personnes, quoi. Une critique de la façon dont les personnes sont bien souvent privés de leurs droits et sont maltraités en psychiatrie. Voilà. Donc ça, non, il y a rien là-dessus parce que il s'agit simplement de l'emploi. Bien. Alors, nous avons été intéressés par la partie les retours des ateliers avec une table ronde de liberté et droit, et nous sommes intéressés aux interventions de Dominique Simoneau et de Sarah Massoud au sujet des droits des patients. Donc par exemple, pour résumer un peu le propos de Dominique Simoneau lors des séances plénières. On rappelle que Dominique Simoneau est contrôleur général des lieux de privation de liberté et donc visite aussi bien les prisons, que les centres éducatifs fermés, que les centres de rétention administrative, les gardes à vue et les hôpitaux psychiatriques, donc, comme je l'ai dit. C'est-à-dire tous les lieux de privation de liberté. Et donc elle présente cette autorité administrative indépendante qu'est le contrôle général des lieux de privation de liberté, avec 5 équipes tous les mois pendant 15 jours. Font une visite tous les mois. Après le constat, on réunit les équipes. Alors, c'est une équipe de 65 personnes, dont 35 permanents, plus des vacataires. La restitution, donc on restitue les faits après la visite. Et puis après, on réfléchit à quelle portée, si c'est grave, par exemple, s'il y a des manquements graves au droit, eh bien, on fait des recommandations en urgence qui sortent très vite. Si c'est moins grave, il y a quand même un appel à une inspection de police. Et puis, le rapport finit par sortir le plus rapidement possible aussi, puisque c'est un peu comme les articles de journaux. Plus ça sort proche de l'actualité, plus ça a de portée. Les choses, hélas, changent très lentement après la publication de ces rapports. Et après la prise, parfois les établissements se font remonter les bretelles, comme on dit, la réponse est « Ah oui, c'était la routine, je ne me suis pas rendu compte ». Et ces changements donc se trouvent souvent à la marge. Mais ce qui est à la marge est tout aussi important que voilà. Ce sont parfois des détails de la vie de tous les jours qui sont pointés dans ces inspections. La contrôleur général des lieux de privation de liberté, Dominique Simoneau, évoque aussi donc la démographie médicale et la surpopulation carcérale, donc médicale dans les HP et carcérale dans les prisons. Il y a eu une démarche d'interroger les ministres de la Santé. Et ça donne pas beaucoup d'effets non plus, surtout qu'il change souvent. Et le contentieux, c'est ce quelque chose qu'elle porte maintenant, le contentieux, c'est-à-dire qu'il y a des conditions indignes de détention, et bien les rapports, on va les faire porter par des associations, puisque le contrôle général n'a pas la personnalité morale pour aller en justice. Donc par des associations comme les avocats, comme l'Observatoire international des prisons, par exemple. Voilà. Souvent, je vais, dit-elle, haranguer les juges administratifs chez qui atterrissent nos rapports, et le plus souvent, on s'est dit, on va faire payer l'État pour ce qu'il ne fait pas. Dans les HP, on a élaboré un rapport sur les voies de recours juridictionnel pour ce qui est de la prison. Comment faire pour obtenir les condamnations de l'État ? Et on va faire la même chose pour ce qui est de la psychiatrie. Le Conseil constitutionnel, alors là j'ai mal compris, mais évoque les conditions, je remplace par évoque, les conditions indignes de la garde à vue. Pourquoi ça ne s'appliquerait pas en psychiatrie, des conditions indignes, il y en a. C'était une première chose. Une deuxième chose qu'on peut reconnaître aussi au contrôle général des lieux de privation de liberté, c'est que leurs rapports ont force de preuve. Ils sont détaillés, on peut les... Alors, accessibles hein, sur le site du CGLPL. Et elle dit tout ce qu'on voit, tout ce qui déraille et ce qui nous arrive. Et ensuite, elle aborde les centres médicaux fermés et les établissements d'ASE, d'aide sociale à l'enfance. Les lieux d'aide sociale à l'enfance. On voit des enfants retirés de leur famille, placés dans ces établissements et qui retrouvent, là où ils sont placés, qui retrouvent de la violence. Alors, manque de moyens, de formation, point d'interrogation. Et là encore, on pose le problème avec un rapport. Alors, cette intervention de Dominique Simoneau se termine par un constat sur les prisons. C'est que, en fait, les prisons deviennent peu à peu elles-mêmes des asiles. Et nous l'écoutons.
Vous avez vu qu'il y a une nouvelle étude qui vient de sortir, qui montre que beaucoup, énormément de sortants de prison sont atteints de troubles psychiatriques sévères, que je crois que c'est 67% atteints de troubles soit addictifs, soit psychiatriques, etc. Et voilà, c'est le titre, ils ont sorti un livre, ceux qui ont fait cette étude, Camille Lance-Levé et Thomas Fauvet, La prison pour asile, et c'est exactement ce qu'on dit depuis des années, la prison est devenue un immense asile psychiatrique. Est-ce que c'est normal? Les surveillants ne sont pas infirmiers psychiatriques, les codétenus non plus, et je vous passe des histoires immondes et horribles que j'entends sur des scènes atroces qui consistent soit à rejeter les fruits de la cellule, soit à les martyriser, soit à les désemparer, ne pas savoir quoi faire. Et je rappelle que le taux de suicide en prison est 7 fois plus élevé que dehors.
La prison pour asile, c'est donc le livre qui a été évoqué ici. C'est donc les auteurs sont Camille Lance-Levé et Thomas Fauvet. C'est édité à la Maison des sciences de l'homme, MSH, et c'est paru le 11 avril 2024. Alors, petite présentation de ce livre. La prison pour asile, point d'interrogation. Les données épidémiologiques le montrent depuis le début des années 2000. La population carcérale française est composée pour une part importante de personnes avec des troubles psychiatriques graves. Face à ce constat et fort de leur expérience respective de sociologue et de psychiatre en milieu carcéral, Camille Lance-Levé et Thomas Fauvet mènent l'enquête. Pourquoi les prisons françaises semblent-elles devenues des asiles contemporains? Peut-on désormais les considérer comme des lieux de soins? Dans quelle mesure la peine de prison est-elle devenue le temps thérapeutique? Cet ouvrage interroge les évolutions croisées de la psychiatrie publique et de la justice pénale pour comprendre la réalité complexe de troubles mentaux en prison et l'expérience de celles et ceux qui s'y trouvent confrontés. Camille Lance-Levé est maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Strasbourg et chercheuse au laboratoire Société, Acteurs et Gouvernement en Europe. Thomas Fauvet est maître de conférences en psychiatrie de l'adulte à l'Université de Lille et chercheur au sein du Centre Lille Neurosciences et Cognition. Et donc une intervention qui nous a assez intéressés aussi dans ces assises citoyennes du soin psychique du mois de mai 2024, c'était l'intervention de Sarah Massoud, qui est juge des libertés et de la détention. Après une un moment musical, eh bien, nous allons écouter cette intervention de Sarah Massoud lors de la table ronde de Liberté et Droit, donc aux Assises citoyennes du soin psychique, samedi 25 mai.
de cette scène, mais parce qu'à chaque fois, de rencontrer des psys, des infirmiers, des patients, ça me met tout le temps... Ça me stresse, mais ça me met toujours en joie. Donc du coup, Mathieu m'a dit que j'étais juge des libertés de la détention. Simplement 30 secondes pour vous dire ce que fait le juge des libertés de la détention, même si certains m'ont déjà entendu. C'est pas la première fois que je viens vous parler. D'ailleurs, je commence à connaître un peu certaines têtes et ça fait plaisir. Le juge des libertés de la détention, il intervient dans trois domaines particuliers, à savoir les hospitalisations sous contrainte, d'où ma présence ici. Il intervient également dans les centres de rétention administrative et les zones d'attente, donc du coup, intervient dans le champ du droit des étrangers, et intervient également pour beaucoup en matière de droit pénal, et notamment sur tout le contentieux, principalement de la détention provisoire. Donc vous l'aurez compris, le juge des libertés de la détention, c'est le juge de l'enfermement. Du coup, je fais le pont avec Dominique, et simplement, je ne pensais pas en parler, mais juste 10 secondes, vous avez parlé de la réforme qui touche le juge des libertés de la détention, c'est-à-dire que lors de la dernière loi sur la justice, le gouvernement macroniste a retiré comme prérogative principale le contentieux civil, c'est-à-dire le contentieux des étrangers et le contentieux des hospitalisations sous contrainte du juge des libertés de la détention. Désormais, ces deux contentieux vont pouvoir être traités par les juges du droit commun. C'est-à-dire qu'il y aura les GLT qui pourront continuer à le faire, mais sur décision des chefs de juridiction, ces contentieux pourront être donnés à d'autres juges. Ce qui est une catastrophe, parce que la spécialité, ça dit beaucoup de la connaissance d'un sujet et surtout d'une politique de l'enfermement. Alors après, c'est vrai que je fais partie d'une caste au sein de la magistrature qui fait partie, je le dis souvent à Patrick, de la caste des salauds. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple d'être de gauche et d'être juge des enfants et juge de l'application des peines. En revanche, d'être procureur et GLD, je fais partie véritablement des raclures. C'est-à-dire que moi, j'enferme des gens toute la journée. Je le dis avec un peu de cynisme, mais c'est vrai, hein. Mais j'ai toujours considéré que mon engagement devait se faire dans les lieux où la résistance devait se faire de la plus brutale possible. Bon bref, tout ça pour vous dire que cette réforme-là va énormément toucher la question des décisions en matière de détention provisoire, en matière de droits des étrangers et en matière également d'hospitalisation sous contrainte. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle que j'ai décidé de quitter ces fonctions et qu'à partir de septembre, je ne serai plus juge des libertés de la détention, comme quoi cette décision a commencé, peut-être commencé par achever certaines de mes pensées. Alors, lorsque Patrick m'a sollicité pour intervenir à ses assises, cela faisait suite à quelques discussions un peu angoissées entre nous au sujet de déclaration d'Armanin. Et notamment d'un projet, celui de doter la police d'un pouvoir médical d'interpellation, voire d'enfermement. Je vous resitue, nous étions en décembre 2023, à la suite d'une attaque au couteau, vous vous souvenez peut-être, ayant fait un mort et deux blessés par un homme qui était surveillé par les services de renseignement parce qu'il était apparemment fiché S et qui était également suivi par les services judiciaires parce qu'il faisait l'objet d'une injonction de soins impliquant un suivi psychiatrique ayant pris fin sur avis médical. Et lorsque Darmanin, donc on est en décembre 2023, avait alors parlé, je cite, d'un ratage psychiatrique. Et il avait manifesté en réaction sa volonté de créer, je cite toujours, et ça va être un peu le fil rouge de mon intervention, une injonction administrative, hors de toute procédure judiciaire, visant à permettre au préfet de forcer quelqu'un à se présenter devant un psychiatre. Alors, au-delà de la vacuité en termes de compréhension du contenu d'un accompagnement psychiatrique, au-delà de l'ineptie en termes de validité d'une nouvelle mesure privative de liberté, mais également au-delà également des incompréhensions dont je parlais avec Patrick sur l'absence totale d'écoute de la mère de cet homme qui avait signalé aux autorités ses inquiétudes quant au comportement et au repli de son fils plusieurs semaines avant la commission des faits, j'avais exprimé à Patrick, avec j'avoue un certain cynisme, le fait que cette sortie des exécutifs en fait ne constituait qu'une nouvelle expression un peu dégoulinante de son fiel sécuritaire, mais surtout constituer une nouvelle pièce à l'édifice de notre état de police. Sachant que je vous rappelle que le titre de mon intervention, c'est « Le fou dans l'œil de l'état de police ». Et par là, de continuer à dire à Patrick que les fous, outre le fait d'être déjà la cible de diverses formes de pénalisation et de carcéralisation, comme l'a dit Dominique, pourraient bien devenir un nouvel ennemi, si ce n'est pas déjà le cas. Achoppant sur le terme d'ennemi, Patrick m'a rapidement reprise et presque sommée à la mesure. Décidément, Darmanin m'avait stressé. Je vais donc m'expliquer devant vous. À retour d'ailleurs des échanges que j'ai pu avoir avec vous par le passé, qui étaient principalement centrés sur le droit des patients et sur les stratégies de défense ou d'accaparement de ces droits. Parce qu'aujourd'hui, le droit sera notre ennemi. En effet, je vais tenter de vous expliquer et surtout de vous alerter sur le risque de voir les fous, de voir les personnes psychiatrisées, être saisies par un instrument policier, à savoir le droit pénal de l'ennemi. Pour ça, deux temps. Un, identifier l'ennemi. Deux, neutraliser l'ennemi. Donc l'identification de l'ennemi par sa substance. Vous me direz que la distinction de l'ami et de l'ennemi traverse toute l'histoire de la pensée politique. Sauf qu'il y a des périodes en dehors des temps de guerre, en dehors des régimes d'exception, même si des déclarations d'état d'urgence se sont succédées et banalisées ces dernières années. Donc il y a des périodes où le politique fonde de manière plus visible le besoin de créer un ennemi. Pour asseoir un discours, donner à voir une action, ou permettre l'exercice efficace de la violence légitime, un exécutif a souvent recours à la théorie dite des deux camps. Vous vous souvenez peut-être des propos du préfet de police Didier Lallement, en rétorquant le 17 novembre 2019 à une femme du mouvement des Gilets jaunes qui venait de l'interpeller et de lui dire, je cite Lallement, « Nous ne sommes pas dans le même camp. » Et faisant ainsi des manifestants, des ennemis, et ce, en vue de défendre le bon ordre social. Dans ce contexte, donc, de mise en scène d'une action, la tâche primordiale du politique consiste donc à créer la catégorie « ennemi » pour ensuite le nommer, c'est-à-dire le démasquer pour l'identifier, et ainsi le construire. Or, en autre matière, la folie s'avère être un terreau totalement idoine pour une telle construction d'un ennemi, d'un antagoniste parfait en la personne du fou. En effet, et là je vais rentrer un tout petit peu dans la technique du droit, c'est la subjectivité criminelle et non plus seulement l'acte criminel qui définit nos pénologies. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme s'attache d'ailleurs elle-même, de façon un peu inquiétante depuis plusieurs années, à redéfinir le principe de proportionnalité entre peine et crime en termes d'une proportionnalité entre peine et risque de récidive. Comme je l'ai développé l'année dernière à l'occasion des journées de la CRIE, le droit, et en particulier le droit pénal, est irrigué par la notion de dangerosité et son application par un usage essentialisé de la dangerosité, et ce faisant par la validation de l'amalgame entre folie et acte fou. Le malade, criminel potentiel, est réduit, et on le voit à nos audiences, on le voit dans nos débats, dans les tribunaux, à un objet criminologique, à ce que certains appellent une rationalité de précaution. Vous le savez, un fort basculement a été acté par la loi Dati sur la rétention et la surveillance de sûreté de 2008, qui a introduit des mesures indexées sur la dangerosité supposée du criminel, c'est-à-dire, selon la définition qu'en donne la Commission nationale consultative des droits de l'homme, sur, je cite, la prédiction aléatoire d'un comportement futur, et non pas sur l'acte. Et l'étude des législations antérieures, avec pour dernière loi marquante celle sur l'irresponsabilité pénale à la suite de l'affaire dite Sarah Halimi, montre que ce mouvement de criminalisation de la maladie mentale ne fait que s'aggraver. Et c'est donc dans ce contexte d'une justice de sûreté que c'est donc la subjectivité criminelle qui est au centre des dispositifs de sécurité et de contrôle. Sauf que il n'est plus seulement question d'une gestion de masse des risques, il n'est plus seulement question de régime de précaution, ni même de politique de sûreté, mais de procédés de neutralisation, et que moi j'appellerais des procédés d'arrachement. Et pour ça, il importe à ce stade de rappeler une réalité du terrain, que nous on voit à la fois dans les tribunaux, mais aussi lorsque l'on se déplace dans les hôpitaux psychiatriques. Cette réalité, c'est celle du mode de gestion extra-hospitalière des personnes psychiatrisées, qui est un corollaire de l'affranchissement espéré du monde SGF. Et avec ce constat que ces personnes, invisibles lorsqu'elles sont enfermées, deviennent indésirables dehors. Elles deviennent indésirables vu l'assèchement des voies institutionnelles protectrices et vu l'abaissement du seuil de tolérance d'une certaine de certaines formes d'irrationalité. En sachant à ce propos que, vous le savez très certainement, mais la pratique du droit pénal est très fortement percutée par la sacralisation de la tolérance zéro, qu'on entend à tout va, mais véritablement nous ça nous percute dans nos pratiques de professionnels, parce que la tolérance zéro, elle a conduit à une diabolisation du moindre désordre, et elle a conduit aussi à annihiler toute tentative de gradation dans l'acceptation de certaines formes de violence. C'est ainsi que le fou, et d'autres d'ailleurs, le marginal, l'exclu, le déviant, deviennent hors les murs des sujets de captation, à leur corps défendant. Dangereux et menaçant, en substance, et d'ailleurs souvent diagnostiqué ou fiché comme tel dans un passé plus ou moins éloigné, avant même tout passage à l'acte, mais seulement au décours de certains accidents de vie, préfigurant même une sorte de radicalité insaisissable, eh bien l'État se doit d'anticiper leurs atteintes à l'ordre public. L'atteinte putative, et nous verrons après, pouvant constituer en soi un trouble à la tranquillité publique et ainsi justifier des mesures coercitives et, comme je le disais, des dispositifs d'arrachement de l'espace public. Vous l'aurez compris, le fou constitue donc une menace. Et dans une culture tabloïde de la catastrophe et de la peur, qui dit menace dit ennemi. Et si je voulais même un peu romantiser mon propos, et sûrement être de mauvaise foi, j'irais même jusqu'à dire qu'il constitue aussi une menace idéologique, en ce que le fou, par la voie de son délire, renvoie à certaines représentations sur l'imaginaire, et nous savons, le marché a pour celle, ou fétichisme, de vouloir éradiquer tout type d'imaginaire, et de canaliser toute forme de déprise. Darmanin l'a bien compris, en parlant de ratage psychiatrique. Il sait très bien que la dimension clinique de la psychiatrie s'est vue reléguée bien derrière la demande hygiéniste faite au psychiatre d'avoir à participer à un projet de contrôle des comportements. Mais s'y pense au-delà. La pathologisation du crime étant acquise, le psychiatre étant devenu pour le juge le spécialiste du mobile et du motif, il serait désormais peut-être temps de pouvoir en amont armer en ce domaine une autre figure d'autorité, la police. La neutralisation de l'ennemi par le droit, contrôler cette masse de perdants? Comment contrôler cette masse d'irrécupérables, inadaptés au marché et tentés par la déviance ou le crime? Et de comprendre comment, dans le vide créé par le déclin de l'État social, s'est installée une idéologie pénale ségrégative. Et c'est en parallèle, ou en son sein, je ne sais pas trop, que de cette idéologie pénale, que s'est construit un droit pénal de l'ennemi, que nombre de juristes, de tous bords d'ailleurs, a étudié et commente maintenant depuis, on va dire, une trentaine d'années. Je ne sais pas si vous connaissez ce droit pénal de l'ennemi, donc je vais vous en dire juste deux mots. Le droit pénal de l'ennemi constitue un prolongement naturel du droit pénal de l'auteur, lequel permet de juger un individu pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'il a fait. Théorisé par le professeur allemand Günther Jacobs, la doctrine du droit pénal de l'ennemi est fondée sur le concept de dépersonnalisation et consiste dans une anticipation de la répression sur l'iter criminis, le cheminement criminel, et un durcissement du traitement réservé à certains délinquants, et ce, en considération de leur dangerosité sociale et ou criminologique présumée. Cela entraîne, comme le développe longuement, je vous invite à lire le chercheur Olivier Kahn, je le cite, une exclusion du délinquant de la communauté politique, et permet alors à l'autorité publique de se départir des principes fondamentaux du droit pénal libéral et d'articuler la répression autour d'un dispositif combinant 1. Infraction obstacle, située très en amont de l'iter criminis, 2. Déploiement d'une procédure pénale beaucoup moins garantiste, et 3. Une sévérité des sanctions en rupture totale avec le principe de proportionnalité pénale. Alors, j'ai l'impression là de vous décliner une théorie toute nouvelle. En fait, cette théorie ne perd pas une révolution de la pensée pénale, en fait, elle réactualise des idées qui étaient déjà anciennes et que la doctrine pénale, en fait, avait délaissé en raison de leur utilisation mortifère par certains régimes, vous me voyez venir, mettant en œuvre l'exclusion, la neutralisation et en définitive l'extermination. Et d'ailleurs, Karl Schmitt avait d'ailleurs fait de l'ennemi, après le registre de l'exception, la condition de l'existence de l'État, ce qui implique que l'État soit en mesure de le désigner et de prendre la décision de le combattre. En droit positif français, le basculement est d'abord intervenu de manière théorique au travers des livres blancs sur la sécurité intérieure face au terrorisme de 2006 et sur la défense et la sécurité nationale de 2008. Et surtout, par le rapport d'Alain Bauer de 2008, qui s'appelait « Déceler, étudier, former, une nouvelle voie pour la recherche stratégique, rapprocher et mobiliser les institutions publiques chargées de penser la sécurité globale. » Ça, c'était la théorie. Et de manière pratique, par toute une législation antiterroriste, dont la loi CILT, dont vous avez très certainement entendu parler, du 30 octobre 2017, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, a intégré dans le droit commun divers dispositifs d'exception, censés être dérogatoires et transitoires, de l'état d'urgence 2015. C'est-à-dire qu'en 2015, on a déclaré l'état d'urgence à la suite des attentats, a été adoptée une loi, cette loi a été définitivement adoptée après les périodes transitoires en 2017, et cette loi, il y a 2 ans, a été à 80% intégrée dans notre ordonnancement juridique ordinaire. Seulement, le curseur du terrorisme, censé justifier, alors, à leurs yeux, un droit et une procédure pénale dérogatoire du droit commun, s'est déplacé à d'autres domaines d'application. 1. Le maintien de l'ordre, et donc la liberté de manifester. 2. La répression des mouvements sociaux, et donc la liberté d'association, voire la liberté d'expression. Et de manière différente, le droit sanitaire, avec des mécanismes issus de l'état d'urgence sanitaire. De sorte que le terroriste n'est plus la seule figure de l'ennemi, puisque sont également visés, dans l'œil de l'état de police, le manifestant, le militant politique ou syndical, l'écologiste aussi, ça a commencé avec la COP21, et l'infecté dans certains contextes.
L'infecté.
Notamment pendant l'état d'urgence sanitaire, celui qui était porteur du virus, attestation, badgeage, quarantaine, confinement. J'ai bientôt terminé. Dans l'œil de l'état de police, parce que c'est un terme que j'utilise, alors vous poserez peut-être la question, parce que j'aurai pas le temps, pourquoi est-ce que j'ai mis police au pluriel, car a été mis en place une tactique répressive étatique avec un traitement différencié des illégalistes. Et surtout, parce qu'il y a des instruments juridiques qui ont été créés et mis en œuvre au service de la coercition. Je vous donne des exemples que vous connaissez tous. Le développement des téléobstacles, pour lesquels il n'est pas nécessaire de caractériser un passage à l'acte matériel, mais seulement de circonscrire une intention délictuelle. Toutes les infractions, quand ça commence par association de malfaiteurs, pas besoin d'avoir commis quelque chose, il suffit d'avoir eu l'intention de le faire. Participation à un groupement formé en vue de, vous voyez, tous les manifestants ont des masques de piscine et tout ça, on présage qu'ils n'ont pas voulu aller à la piscine et qu'ils ont voulu renverser l'État. Alors qu'ils ont juste mis des masques de piscine. Ils font partie d'un groupement en vue de, pas besoin de casser, dégrader, ils n'ont même pas eu à toucher un abri de bus, bam, ils sont pénalisés. Deux, le développement des gardes à vue préventives, avec tout le fichage qui va avec. Sachant que je vous le rappelle, c'est peut-être anecdotique, hein, mais je vous le dis quand même, les gardes à vue préventives, c'est illégal. Mais c'est une pratique qui est toutes les semaines mise à l'aise. Trois, l'extension de ce qu'on appelle les périmètres de protection. L'extension des critères de contrôle d'identité et de fouille, avec un brouillage entre police administrative et police judiciaire. Plus personne, maintenant, se pose la question de savoir pourquoi va y avoir un vigile à l'entrée du Monoprix qui va regarder vos sacs. C'est parti maintenant du quotidien. C'est une prérogative de police judiciaire. Hein. Il y a encore 10 ans, c'était une prérogative de police judiciaire. Quatre, la mise en place aussi de dispositions non discriminantes, avec une législation galopante en matière de technopolice. Boîte noire, IMSI catchers, surveillance des flux de télécommunications, vidéosurveillance mobile, embarquée, immobile, déploiement des drones, technologie d'intelligence artificielle, bref. Vous imaginez le malade mental qui commence à mal se sentir sur la voie publique avec une vidéosurveillance qui va commencer à capter des petits mouvements erratiques comme ça, juste parce qu'il va pas bien. Vous imaginez ce que ça va faire sur lui lorsqu'il va avoir débarqué des flics, juste parce qu'il aura titubé. Je le dis en rigolant, mais c'est aujourd'hui, hein. Étant ajouté que ces dispositifs juridiques coercitifs ont été accompagnés de ce que les gouvernements Hollande et Macron ont officiellement qualifié sous la bannière de continuum de sécurité, d'une militarisation de la police, je ne vais pas faire la liste de toutes les armes, d'un accroissement des prérogatives de sécurité privée, il y a maintenant plus de flics quasiment privés que publics, et d'une augmentation du nombre d'agents sur la voie publique. Nous sommes le deuxième pays européen à avoir de plus d'agents de forces intérieures sur le territoire. On est à peu près à 450 000 flics en France. Et également, dispositifs juridiques qui ont été accompagnés, pour certains sociologues de la police, d'une ce qu'on appelle autonomisation du corps policier par rapport au pouvoir politique. Je pense que tout le monde a compris qu'aujourd'hui, on se demande si c'est Darmanin qui décide ou si c'est le syndicat Alliance. Aussi, et j'en terminerai là, lorsque Darmanin part de cette injonction administrative, il sous-tend en fait l'exercice possible de pouvoir de police administrative et fait application, consciemment ou pas d'ailleurs, de ce droit pénal de l'ennemi. Et ce, dans un cadre qui diffère des SDRE, que vous connaissez tous, c'est-à-dire des mesures de soins sous contrainte à la demande du préfet, puisqu'il n'y a aucune intervention et aucun contrôle du juge. et qu'à la différence de la loi Dati, qui vise des personnes qui ont été jugées, qui ont été parfois incarcérées et qui intervient après la peine, là ça vise avant même la commission d'un acte, avant même toute forme de pénalisation pratique. Alors ce cours d'écritage que je vous ai livré aujourd'hui, loin d'être dystopique, et que je suis désolée, je ne voudrais pas anxiogène. Simplement ces quelques développements d'une dizaine de minutes sur ce droit pénal de l'ennemi, en fait, c'est juste que je voulais vous montrer que l'histoire du droit, elle est aussi celle de l'histoire des parias. Et c'est pour ça que je voulais profiter d'un public non juriste pour vous dire que des verrous de l'état de droit sautent à tout va ces derniers temps, au préjudice de tous, mais surtout au préjudice des plus fragiles.
Sarah Massoud, donc aux assises du soin psychique, la table ronde Liberté et droit, le samedi 25 mai 2024. Et c'est pourquoi les liens entre justice et psychiatrie sont aussi des moyens de lutte, comme l'a souligné Mathieu Bellassène en introduction de cette table ronde lors de cette journée. Eh bien, ainsi se termine l'entonnoir pour aujourd'hui. Nous avons entendu au milieu de cette heure le groupe Electric Po, un morceau qui s'intitule Wake Up. Et maintenant, nous allons écouter Serna, un morceau intitulé Planter le décor. Au revoir, à la semaine prochaine.
Je dédie ces lignes à mes complices inconsolables, à mes cassos, que les conseillers d'orientation ne savent plus caser. Aux psychiatrisés en sursis, tous les marmots de la zone grise, genre agité, trop bouillant, dès la matière, à ceux qui se terrent dans un silence assourdissant, aux escapés de l'abattoir, à ceux qui mentent et ceux qui manquent. Premier couplet. Comme pour planter le décor, détourner le destin, immaculer le poster. Quelques mots pour transgresser le mot d'ordre, pour gâcher le festin et provoquer le bordel. Bordel, de partout ça se rétrécit, les médocs ont bâillonné, l'asile et la ville. Cherche même pas une issue, tout autour c'est pareil. Des centaines de lieux clos ont jalonné nos vies. Bordel, où je traîne la camisole, spare de toutes les douleurs. Naldenamox, la turbine à la chienne, de la crèche à la morgue, à la longue les injures ont façonné les corps. Les vautours sont de sortie, psychiatre fait ton office, fait nos vies des parcours, promenade en zone grise. Pareil que je relève de la psy, y'a problème. C'est pas dit que je m'en relève. Ici, premier garde chiant, mon garde à vous, veut que tu te mettes à table, comme en garde à vue, sale. Peu de garde-fous, peu de cartes à jouer. C'est que le jeu est truqué, c'est que le proc fait l'arbitre et la nuit. L'infirmier dort paisible pendant que mes morts ou vivent jouent de la corde à vie, serre des dents. Moi j'ai de la haine à revendre, mais là je leur fais gratuite. Bienvenue dans les non-lieux de la raison médicale, où l'erreur est proscrite et la bête est humaine. L'horreur trop quotidienne, à la longue trop banale, n'a plus parfum de scandale. Bienvenue dans le meilleur des mondes, où la route est balisée, pavée de bonnes intentions. Soyons sages, t'inquiète, il s'occupe de tout, ça dort du sommeil du juste. Second couplet. Pour provoquer le désordre, pour peupler le désert et réveiller le désir, de piller le bazar, de brûler le trésor. Ils courtisent l'histoire, on se fait baiser par le récit. Bordel, j'ai mal, t'as mal aussi, on ne guérira jamais, mais c'est peut-être mieux ainsi. C'est certain. dingue à Saint-Anne, ils entraident par centaines de frémeaux, réduits à des symptômes. Mais bordel, on se soigne pas de ce monde, ils se rappellent à nous, partout, tout le temps. Dehors, les murs, dedans, la bombe, ça peut t'essouffler à tout instant. Reste à savoir qui commence, est-ce la terre ou nos têtes? C'est le même mouvement, on crache les mêmes poussières, même fumée, toxique, même carrière en friche, dont de grands savants veulent extraire la pierre de folie. Signe de ton sang, bat de page sur les murs de ta cellule. La psy m'a tué. Y'avait quelqu'un au fond de la cage, rebelle, en colère, impatient, puis plus rien. Je vais peut-être être pénible une fois cette fête finie. J'aurais gratté quelques rimes avant le chaos technique. Vestiaire, maintenant je rejoins le bestiaire. Pas le choix, mes délires seront féconds ou bien alors mortels. Ou bien alors mortels. Bienvenue dans les non-lieux de la raison médicale, où l'erreur est proscrite et la bête est humaine. L'horreur trop quotidienne, à la longue trop banale, n'a plus parfum de scandale. Bienvenue dans le meilleur des mondes, où la route est balisée, pavée de bonnes intentions. Soyons sages, t'inquiète, il s'occupe de tout, ça dort du sommeil du juste.
Soleil.
Le libertaire debout, le soleil à son zénith. Une émission de Radio Libertaire Méditerranée.
Bon,
Bonjour, bienvenue dans Un rayon de soleil, l'émission du sud de la France sur Radio Libertaire. Aujourd'hui, nous allons avoir une émission bien dense, avec beaucoup d'actualités. Tout d'abord, nous allons rendre hommage à Ben, qui nous a quittés tragiquement, qui s'est suicidé. Et c'était un artiste exceptionnel de l'école de Nice. Et il a fait vraiment avancer au point de vue des concepts un certain nombre de choses. Un peu de musique et puis après nous écouterons la manière dont les grands de ce monde essayent de nous entuber avec plusieurs procès qui sont